Café, radio et éducation populaire, une chronique pour mieux connaître les organismes citoyens des régions de Québec et Chaudière-Appalaches, une présentation du RÉPAC 0312.
Pouap, 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 pouap. 8h31, minutes presque 32, et on va parler à deux personnes qui sont en studio avec moi, de la belle visite. Salut à vous deux.
Allô, allô.
C'est Frédéric Côté, coordonnateur de la clinique Droit de Cité qui est là, et Gabrielle Poirier qui est intervenante sociale. Là, on était fru tantôt, là, on a on parlait. Ouais. Non, mais j'en ai parlé en ouverture d'émission, puis ça n'a pas rapport avec le sujet, mais vous savez, peut-être, chers auditrices et auditeurs, qu'il y a eu un accident au coin Charest et Marie de l'Incarnation hier, puis on est tous les trois, là, on s'insurgesse sur le fait que la sécurité routière dans ce coin-là, elle est déficiente. Il y a une épicerie, toutes sortes de commerces, on se rend là, puis on n'est pas sécure, puis bon, bref, il y a un homme qui est entre la vie et la mort en ce moment, qui s'est fait frapper, puis on était triste aussi pour lui. Donc, ben voilà, ça introduit drôlement l'entrevue, parce qu'on est hors sujet, mais peut-être qu'il y a des gens qui nous écoutent, qui fréquentent ce coin-là, puis qui partagent notre point de vue, parce que ça fait quand même du bien de parler de ça. Faut que ça change. Ça n'a aucun sens, la sécurité dans ce coin-là, pour les piétons et les vélos. Donc, revenons à nos moutons, la clinique Droit de Cité. Pour ce qui est des points là principaux, tout d'abord, commençons par expliquer ce que c'est que votre mission.
Ben oui, mais moi je dirais quand même qu'il y a un lien, Marjorie, avec ce que tu viens de dire, parce qu'on touche là l'espace public, oui. La sécurité dans l'espace public, et on sait que nous, ben à la clinique Droit de Cité, en fait, c'est un organisme communautaire, d'action communautaire autonome, qui, ben en fait, concrètement, ce qu'on fait, c'est qu'on accueille des personnes qui sont dites marginalisées ou en situation d'itinérance, qui sont, ben justement, se trouvent dans l'espace public peut-être plus souvent que d'autres personnes, faute d'avoir un toit puis des ressources. Donc, ces personnes-là sont plus à risque ou sont plus fréquemment interpellées par le service de police. Puis là, ben nous, là, c'est notre mission, c'est que le fait d'être interpellé, souvent, se retrouve à être judiciarisé ou surjudiciarisé, donc à se trouver avec des constats d'infraction pour différentes raisons. On va en parler durant l'entrevue. Et, ben en bon français, des tickets. Puis, ça vient alourdir leur parcours. Donc, nous, on vise à faire de l'accompagnement avec ces personnes-là. On les accueille. On défend leurs droits aussi de manière individuelle et collective. Donc, on approche aussi ces enjeux-là de manière politique, entre autres. Et puis, c'est ça, on a un service d'accompagnement avec deux intervenantes sociales, Gabrielle qui est ici et Josiane. Puis on a une personne, on est en embauche, mais un organisateur ou une organisatrice communautaire pour porter les enjeux de manière plus globale, plus politique, sensibilisée, formée.
De l'externe là, un peu, de la sensibilisation puis de l'information. Gabrielle Poirier, quand on parle d'accompagnement, comment ça se passe concrètement?
C'est certain que ça c'est des gens qui ont une dette judiciaire souvent énorme envers la ville de Québec ou envers d'autres municipalités donc
ça c'est juste ramassé avec cette dette là ça peut être juste des tickets accumulés parce qu'ils étaient sur la voie
c'est
publique,
ça exact
genre flanage
on punit la survie en gros c'est comme ça qu'on l'appelle là, c'est de punir la survie fait qu'effectivement qu'on va retrouver je vais accompagner des gens là qui sont extrêmement stressés, qui ont des enjeux d'itinérance, de santé mentale, de toxicomanie, et qu'en plus, les services de police là, sont venus punir soit leur occupation de l'espace public, le fait qu'ils soient en ivresse, le fait qu'ils traversent la rue en diagonale, le fait qu'ils traversent la rue ou qu'ils ont ils ont pas de réflecteur avant sur leur vélo. En tout cas, toute cette panoplie de règlements municipaux-là vient les stresser, vient ajouter une couche de plus là, sur le fait qu'ils n'ont pas mangé le matin ou qui n'ont même pas de place pour dormir.
Ça aide pas à grand-chose.
Ça coûte énormément cher à l'État, mais en plus, ça sert à rien.
Ça coûte cher parce qu'il faut qu'il y ait des services qui se chargent de ça, des services policiers, finalement, qui s'occupent
des
juges. Des étiquettes, des juges et tout ça.
C'est ça, exact.
Et vous avez d'ailleurs, la clinique Droit de Cité, d'autres organisations, vous avez informé la Ville de Québec à de nombreuses reprises de cette problématique-là. Et la Ville de Québec, qui avait pris certains engagements en la matière, dans le sens où on se disait, faut pas, en tout cas, faut le moins possible émettre de constats d'infraction aux itinérants et itinérantes de la ville de Québec. Je me demandais si c'est une mesure qui a été efficace. Je sais que plus ou moins, en tout cas, bref, ça se remet encore d'étiquettes à la ville. Vous voyez ça tous les jours?
Oui, effectivement, on le voit tous les jours. Puis c'est des contraventions qui sont sous le règlement municipal de la paix et le bon ordre, là, qui nous, vraiment, notre cheval de bataille à Droite-Cité, là, c'est un règlement municipal là, qui vise strictement les personnes en situation de précarité et d'itinérance. Puisque ce sont juste les itinérants qui ponquent ces étiquettes-là. Ouais. C'est pas nous qui allons se faire arrêter pour avoir traversé en diagonale. C'est pas nous qui allons se faire arrêter pour avoir occupé deux places sur un banc de parc. Effectivement, qu'on n'a pas... On a une maison pour faire dodo. C'est vraiment strictement des étiquettes qui sont données à des personnes en situation de survie. Donc,
ouais, et donc c'est vraiment
la survie qui donne la contravention.
Je sens, Gabriel, que ça vous choque, ce genre d'affaires-là. À quel point? Pourquoi ça vous choque? Vous pouvez répondre
En fait, ce qu'on parle, c'est d'enjeux de judiciarisation de l'itinérance. En fait, juste au plan moral, là, d'abord, c'est pour une société, là, nous, ce qu'on constate, c'est qu'on réprime, c'est la répression de la pauvreté. Là. C'est des personnes en situation de grande précarité financière et autres, là, vivent déjà avec des problématiques de tout ordre, là, santé mentale, problèmes de toxico. Puis là, ce que tu l'as nommé, Marjorie, on vient envoyer la police pour régler un problème qui est d'ordre social, communautaire, de santé, de sécurité des personnes dans la rue. Et là, ce qu'on s'aperçoit, c'est qu'on envoie la police, puis ça a pour effet d'alourdir déjà le vécu des personnes et d'alourdir aussi au plan social... Ça a des effets, là. Tu sais, on le voit d'ailleurs, là, l'image que ça projette sur un centre-ville. Chez les personnes aussi, de voir fréquemment la police tourner autour d'elles, de les interpeller, c'est un stress constant.
On en voit des fois qui courent, qui aperçoivent des chars de police sur le coin, là, puis qu'eux autres, là, pour eux, là, et elles, la police, ça veut pas dire ça va être ma sécurité qui
absolument
va être.
Pas.
C'est plutôt le contraire. Mm-hmm. Ils ont peur des policiers.
Tout à fait. Puis on a vécu, à Montréal, hein, puisqu'on veut pas vivre à Québec. Non plus, il y a une personne quand même qui est décédée dans une toilette de peur d'être interpellée en lien avec les mesures sanitaires. C'était quelqu'un qui était probablement aussi, là, je ne connais pas le fond de l'histoire, mais qui était peut-être interpellé fréquemment. Donc, en sachant qu'il y avait un autre risque qui s'ajoutait d'être interpellé pour d'autres raisons, c'est caché puis s'est retrouvé à décéder dans une toilette.
C'est spécial parce que d'un autre côté, on entend les services policiers dire « call in the bin, c'est pas évident parce qu'on doit gérer des problèmes sociaux alors qu'on n'est pas formé pour ça, on n'est pas intervenant. » Puis de l'autre de bord, vous vous dites, mais là, c'est pas à la police de régler ça. Donc, vous êtes d'accord, là, dans le sens où c'est pas à la police de faire ça. Il est où le problème? Sous-financement des organismes communautaires?
Moi, je dirais que le problème est surtout dans la formation, dans l'employabilité de la police. C'est sûr que l'institution comme telle, on la critique beaucoup. C'est quand même... La police est surfinancée, on se cachera pas. C'est certain que dans l'employabilité puis dans leurs ressources humaines, il y a un problème. Il y a un problème au niveau de la formation, effectivement, mais dans comment qu'ils sont employés à l'École nationale de police, qu'est-ce qui est attiré dans l'espèce de service de marketing d'employabilité de la police, c'est des gros chars de GTI, des uniformes, des armes. C'est ça qui attire les jeunes à aller vers le service de police. Donc, c'est pas ça, la job. S'ils savent que c'est de la première ligne et de la santé mentale, c'est pas des gros autos qui attirent. En tout cas, des gens qui sont intéressés par l'être humain. La police le dit aussi, ça prend des gens qui sont intéressés par l'être humain et non par les armes et le pouvoir.
Ouais, les pistes de solution maintenant qui visent la déjudiciarisation, voilà. Et l'inclusion sociale, parce qu'il y en a là, des pistes de solution.
Puis en fait, c'est ça. Là, on a parlé de judiciarisation comme problème. Il y a aussi le profilage. Il faut que ça soit reconnu que l'intervention, c'est qu'il y a des populations. C'est même documenté, là, on le sait par des données certaines personnes, le fait de la manière qu'elles se sont habillées, comment où elles se trouvent, se voient plus souvent interpellées et remettent des constats d'infraction. Tu sais, on voulait te le poser la question, Marjorie. Toi, tu t'es-tu déjà fait remettre un constat d'infraction parce que t'occupes deux places sur un banc?
C'est la même chose pour le profilage racial, notamment. Gabriel le disait, nous, on se fera pas arrêter si on traverse en diagonale dans une rue. C'est parce qu'on a un tel type de profil qu'on va se faire arrêter ou interpeller.
Donc, sur ce point-là, Gabriel l'a nommé, les règlements municipaux, d'abord, il y en a, là, on le sait, à la Ville de Québec, le règlement sur la paix et le bon ordre, vous irez creuser ça. Il y a des règlements très précisément là, qui sont discriminatoires. Le fait de flâner, de mendier, d'occuper deux places sur un banc. Occuper deux places sur un banc, là, on le sait, là, c'est quoi ça vise? C'est les personnes qui s'étendent pour se reposer pendant la journée, faute d'avoir un endroit pour le faire. Un truc aussi sur lequel j'appuie là depuis quelques temps, entre autres avec nos rencontres avec les candidats, candidates aux élections, parce qu'on les a rencontrés, c'est prévoir aussi de l'aménagement qui permet à tout le monde d'avoir une place. Notre ville, en ce moment, il y a une lutte pour trouver de l'espace, pour se sentir bien. On le sait, en ce moment, Saint-Roch, c'est le chaos. Ouais. C'est épouvantable. Mm-hmm. Je sais que t'en parles, Marjorie, mais ces personnes-là sont constamment à composer avec du bruit, de l'agression dans leur vie. En plus, se voient interpellées par la police, parce qu'on le sait, lorsqu'il y a un ménage qui est fait, là, entre autres autour du carré Lépine, ben les personnes, en fait l'équipe du ménage, c'est la police qui les accompagne aussi. Bon, il y a eu de la sensibilisation, il y a quand même une préoccupation de le faire d'une certaine manière, mais on voit encore que les personnes doivent plus souvent que d'autres populations être, que la population en général, de composer avec les services de police.
Donc, des revendications actuelles adressées aux candidats et candidates aux élections municipales, quelles sont-elles?
Ah, c'est certain qu'on vise la reconnaissance du profilage social par la Ville de Québec. Ouais. C'est certain que c'est vraiment une de nos revendications. On veut absolument que le règlement sur l'appel bonheur soit aboli, qu'il y ait un comité qui soit formé pour... en tout cas, je pense qu'il y a déjà un comité de formé pour parler de ça, mais... Ça va pas très vite. Puis Fred aussi.
C'est ça, on avait trois là, sur lesquels on appuyait. Mm-hmm. Puis donc, Gabriel vient d'en nommer deux. La troisième, c'est qu'on veut que les groupes d'action communautaire autonomes, puis c'est une chance qu'on est ici dans tes studios, puis ce projet-là, d'inviter les groupes d'action communautaire autonomes et même ceux qui ont des missions de défense des droits, on veut que ces groupes-là soient reconnus par la ville. Mm-hmm. Et valorisé aussi et soutenu, tu sais, parce que ce qu'on observe, c'est que oui, il y a un service de développement social, oui, le communautaire, la ville connaît ça, mais peut-être connaît plus certaines missions qui touchent certaines populations. Mais il faut accepter aussi que les groupes de défense des droits, ils ont un mandat qui est important, c'est celui de porter la voix de personnes qui ont moins souvent la voix, puis que d'être ces personnes-là nécessairement ont besoin que leurs intérêts, leurs besoins soient représentés. On l'entend de toute façon ces temps-ci, il y a des besoins.
Ben oui, il y a des besoins, ne serait-ce que ce fameux Lobe-Rivière dont on entend tellement parler, qui est un problème plus large que Lobe-Rivière, on va le rappeler. La problématique de reconnaissance des organismes communautaires, là, pour faire une petite parenthèse, je le répète, j'en ai parlé aussi à l'antenne, mais pour celles et ceux qui n'ont jamais entendu parler de ça, c'est que la Ville de Québec reconnaît officiellement certains organismes communautaires qui doivent remplir un formulaire, là. Il y a des critères et il y en a beaucoup, étrangement, qui font partie de ces organisations d'éducation populaire, qui ne sont pas reconnues. Quand on est reconnu, ben on a droit à des services, c'est-à-dire location de salles, ben pas location, des salles gratuites, des chaises. Ça paraît niaiseux, mais quand on a plus de budget pour organiser, par exemple, une assemblée générale annuelle, ben ça nous enlève un poids de ses épaules, puis on peut s'occuper des gens qui peuvent profiter de nos services au lieu de se gratter la tête pour louer un local.
Tout
ça, c'est
fait.
Un exemple.
Tout à fait.
Mais bon, vous revendiquez ça aussi. Ça peut vous aider, ça.
Oui. Tout à fait. Puis, un exemple qui aurait pu nous servir très récemment, c'est dans le cadre des élections. Nous, on a rencontré les candidats, candidates dans nos bureaux, mais on a entendu qu'il y avait, tu sais, on savait qu'il y avait un débat. On aurait aimé ça aussi, inviter à ce qu'il y ait une activité, puis d'avoir des ressources, entre autres location de projecteurs, des tables, puis la ville offre ça aux organismes qui sont reconnus. Puis nous, dans notre mandat, comme je l'ai dit au début, on a aussi une portée collective, sensibilisation, formation, des débats d'idées. Donc, c'est sûr que ces ressources-là, c'est pas rien là, pour nous. Mm-hmm. Après, c'est à nous autres de l'assumer puis de gérer tout ça en plus du reste.
Si on veut plus d'informations sur la clinique droiticité, ben c'est facile. Il y a un site Internet. Vous avez aussi une page Facebook. Votre mission, elle est hyper importante. Continuez votre beau travail, vraiment. Quelque chose à ajouter rapidement?
Ben, juste dire que nous, nos bureaux, on a déménagé. Avant, on avait un super beau partenariat avec l'Aube-Rivière, mais depuis leur déménagement, ben, nous, on est rendu à la Maison de la coopération sur le boulevard Charest. Donc, 155 boulevard Charest au premier étage. Puis, on est prête à accueillir les personnes qui sont aux prises avec des constats d'infraction.
Merci beaucoup, Frédéric. Frédéric Côté, coordonnateur clinique droiticité, Gabrielle Poirier, intervenante sociale. Je vous souhaite une belle journée.
Merci.
Merci.
Café, radio et éducation populaire, une chronique pour mieux connaître les organismes citoyens des régions de Québec et Chaudière-Appalaches, une présentation du REPAC 0312.